Elles font l'espace avec Jules Grand-Cyr.
Un petit bijou d'extrait avec Marion Montaigne. Elle nous raconte comment est née sa BD dans la combi de Thomas Pesquet, sa méthode, ses galères, ses doutes, et toujours, vous allez l'entendre, son humour.
Il y a eu un moment où je me suis retrouvée face à Monsieur Clairvoix.
Oui.
Et moi, j'ai vu Monsieur Clairvoix.
Jean-François Clairvoix.
Jean-François, bonjour.
Un astronaute bien connu de l'Agence spatiale.
Et je ne comprenais pas que les gens fassent. Ah ouais. Enfin, même si vous ne connaissez pas. Ça... Mais astronaute, mince, attends. Pour moi, c'était celui qui avait réparé Hubble.
Ouais.
Et c'est là que je me suis dit, bah, peut-être que tu t'es vraiment documenté, enfin, tu t'es intéressé à ce métier-là. Alors que. Enfin, je ne comprenais pas que les gens ne soient pas épatés par ces gens qui vont dans l'espace et qui sont dans des lieux clos, hyper dangereux.
Et tu pensais que tu avais un biais, du coup, à l'époque ? Que toi,
ça t'intéressait ? En fait, j'ai été surprise que le fait que je dise « j'ai rencontré un astronaute », il y en a, ça... Pour moi, c'est comme si on disait un peu « j'ai dîné avec, quelqu'un de politique ». Enfin, moi, ça ne me fait pas rêver, les politiques, mais je ne sais pas, une sorte de... c'est quelqu'un d'important.
Donc, tu t'es dit « j'ai peut-être un biais, je trouve ça super intéressant », et en fait, tout le monde s'en fiche.
Ah non, moi je me suis dit, c'est intéressant. Je vais juste vous montrer que c'est intéressant. Enfin, okay. Je ne vois pas, je ne comprends pas que vous ne pouvez pas trouver ça intéressant. Donc j'ai dit à mon éditrice, c'est super intéressant. Au début, oui, il y avait un côté, on ne sait pas qui Marion Montaigne allait nous chercher encore. Un obscur bonhomme.
Il fallait aller à Houston, il fallait payer des voyages et
tout. J'ai avancé mes billets et tout en disant ah, mais si, ça va être super. Non, ils commençaient à comprendre parce que là, on en parlait de la mission et tout.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça prenait de l'ampleur. Et je pense qu'on s'est auto-effrayé nous-mêmes. Enfin, elle en est à 200 pages. Mais moi, j'étais très intimidée. Plus devenait connu, plus je fais oula, si je fais de la bouse, ça va pas passer de ma partie. Là, j'avais super peur qu'on dise que j'ai profité de la situation, qu'on ait dit « Ah bah, tu l'as suivi parce qu'il est connu. » Et alors que je me disais « Bah non, je l'ai suivi parce que c'est intéressant ce qu'il fait. » Et j'avais super peur qu'on pense que...
Tu pensais qu'on allait te taxer d'opportunisme une fois que le boulot était fait, quoi, c'est ça ?
Ouais. Moi, je me souviens de l'époque où... on ne voyait pas du tout qui était ce monsieur. dans ma famille, je fais ces machins. Ou moi-même, je dois googliser, où je fais bon, il n'a pas une trop mauvaise tête, il a l'air sympa. Je me souviens de tout ça, et donc c'est marrant.
Et ce milieu du spatial, justement, au-delà de la personne de Thomas Pesquet, c'est un milieu que tu as découvert. Tu en parlais tout à l'heure, Laura-André Boyer, qui était invitée aussi du podcast, d'autres personnes, les gens à Houston, les instructeurs du Soyouz. C'est un monde, un univers, une communauté que tu as réussi à vraiment découvrir. Tu as eu accès aussi, tu dirais ?
J'avais surtout accès... moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir tout compris parce que déjà, je me greffais à certains moments de la mission.
Ouais.
Ensuite, Thomas, il y avait son point de vue. J'essayais aussi de comprendre comment ça marchait. Moi, ce que j'ai surtout compris, je me disais, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de monde derrière, qui travaille à l'aider, qu'il y a beaucoup, que c'est scientifique, parce que souvent on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut ? Enfin, il y avait plein de questions quand je parlais, je suis sur Thomas Pesquet, c'est à quoi ça sert, où ça va ? Il y en a qui disent, où est la station autour de la Lune ? Je vais devoir expliquer ça. Il part dans une navette ? Non, je notais toutes les questions qu'on me posait. On parle beaucoup d'Elon Musk, etc. Mais finalement, il y a beaucoup de choses fondamentales qui ont été faites par le bien public, etc. Je voulais rappeler un peu ça, qu'il y a des recherches qui sont faites dans la station, qui vont être publiées pour un bien commun, qui vont être réutilisées, etc. C'est important. Ouais. Et après, c'est dur d'expliquer au grand public. Peut-être qu'il y aura une application, peut-être dans votre vie ou pas, mais c'est la recherche.
Ça, c'est le problème de la recherche fondamentale, de manière générale.
Et je me disais aussi, parce que je pense que j'ai écouté quasiment toutes les interviews de Thomas, je me disais, waouh, alors, radio, il est à la radio, il a à peine top chrono. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la station ? Hop, et je sais comment c'est à la radio, vous avez 30 secondes. Allez expliquer en 30 secondes ce que moi, quelqu'un, aux quatre mots, ça a pris, les gens qui font les expériences, a pris une demi-heure, trois quarts d'heure à montrer à quoi un four à ionisation, à un niveau... technique dont l'application est... C'est impossible.
Il y a quelque chose dans la recherche fondamentale. Toi, tu as beaucoup travaillé aussi dans d'autres domaines pour vulgariser cette recherche fondamentale. On ne peut pas toujours justifier la recherche fondamentale avec des exemples ou avec des retombées. Il y a un moment, je crois qu'il faut juste accepter d'investir dans de la recherche fondamentale sans avoir un but précis.
C'est plus pour savoir, pour la connaissance. Mais là, mais ce qui est grave, c'est dans le financement. En ce moment, j'ai l'impression qu'on demande aux chercheurs maintenant de chercher justement des recherches qui seront, où ils sauraient tout de suite quelle application on fait. Or, une recherche fondamentale, c'est juste pour la connaissance. On veut savoir, je ne sais pas comment fonctionne un fluide, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Peut-être que plus tard, cette recherche sera utilisée. Et je trouve que c'est même se tirer une balle dans le pied, parce que c'est prendre le problème à l'envers. C'est essayons de comprendre comment le monde fonctionne, et après, on essaiera de trouver des applications. Là, on demande de trouver une application de suite à ce que vous cherchez. Un truc que je n'avais pas estimé, c'est que derrière, il y a plein de chercheurs qui essayent de créer une expérience dont l'astronaute sera une main derrière. Il fallait montrer tout ça.
Oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens autour de l'astronaute. Et en réalité, on se rend compte aussi par la BD, que c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que l'astronaute fait partie d'une équipe qui est beaucoup plus grande, et que c'est l'équipe de la mission. Donc l'objectif, c'est pas simplement de l'envoyer dans l'espace, c'est qu'il puisse faire ses expériences dans l'espace. Et pour ça, il faut le préparer, l'envoyer, etc., etc. Mais c'est vraiment un travail d'équipe.
Et c'est pour ça que je pense qu'il voulait que j'y aille après, le voir.
Oui.
Parce qu'après, il y avait tous les examens médicaux. Son corps était au service de toute la recherche qui était en place. Il y avait vraiment les médecins qui voulaient voir. C'était aussi montrer comment lui, sa personne, est une continuité même comme un objet d'étude. Et ça aussi, c'était impressionnant. Je n'avais pas vu... Je pense que j'avais beaucoup l'esprit à l'étoffe des héros, mais c'était une autre époque où là, c'était de la conquête. Là, c'est vraiment, on étudie dans l'espace, on travaille dedans, on fait de la science. Ouais. Donc, c'est tout ça que j'ai dû apprendre et essayer de comprendre comment ça s'organisait, essayer de retranscrire, juste comprendre que c'est beaucoup.
Et tu as dessiné aussi des gens qui sont autour de Thomas dans la mission. Tu as dessiné Laura d'ailleurs, parce qu'on parle de...
Mais je me suis demandé si je l'ai dit, mais je dessine tellement pas les gens.
Non.
Je crois que je t'ai dessiné, mais on reconnaît juste une mèche.
Ouais, moi j'ai la mèche.
Jaune fluo.
Jaune fluo, ouais, tout à fait la couleur de mes cheveux. mais par contre, non, il y a des gens qu'on reconnaît. Romain Charles.
Oui, oui.
Moi, on le connaît. Yuri Kargapoulov.
Bien sûr.
Connaît.
Très gentil, qui m'a offert des petits biscuits.
Voilà, qui est un peu le chef des astronautes européens à Moscou.
Et ouais, il y a des gens un peu emblématiques comme ça. Bah, déjà, ceux qui m'ont reçu, que j'ai rencontré, et puis qui ont des statues que je cernais un peu autour de Thomas. Puis c'était aussi un clin d'œil pour les remercier de m'avoir un peu reçu, pris du temps. En fait, j'ai un peu mangé de leur temps aussi.
Ouais, les autres astronautes aussi, tu les as dessinés.
Oui, alors je trouve pas que je suis une très bonne portraitiste. Je m'excuse auprès de Luca Parmitano que je dessine un peu très allongé. Il n'a pas de cou.
Ok.
Je l'ai beaucoup dessiné parce que Thomas aimait bien parler de Lucas. Ouais, j'ai essayé de moi-même pour me retrouver dans les personnages et puis. Puis c'est des gens, des fois même je me demande si je ne mettais pas leur nom, donc autant les dessiner. Ouais, j'en ai dessiné quelques-uns.
Ouais. Et donc en 2017, en novembre 2017, je crois que c'est le 23 novembre, aujourd'hui on est le 26 novembre 2024.
Je sais pas le jour exact.
Donc c'est presque jour près, en 2017, paraît enfin cette BD de 200 pages qui finit par s'appeler Dans la combi de Thomas Pesquet. Il y avait d'autres titres d'ailleurs, parce que je me rappelle que c'est une discussion qu'on avait eue quand on s'est vu la première fois à Cologne en 2015. Réfléchissais au titre.
Alors, c'est pas évident parce que en édition, vous avez un peu les commerciaux qui aiment bien se dire il faut que ça marche en mots-clés. Comme ça, sur Internet, vous allez trouver. Donc, il faudrait le mot astronaute, il faudrait le mot. Thomas Pesquet, si t'arrives à, si tu peux, limite Odyssée et tout, et on n'arrivait pas à tout caser. Et surtout, ça donnait pas l'esprit. En fait, ça faisait des titres un peu trop pompeux, La mystérieuse aventure.
Plutôt, tu voulais que ça ressemble, j'imagine, à la BD. Il fallait qu'il y ait un esprit.
Ouais, mais en juin, j'ai ramené une couverture vraiment moche à Thomas avec un titre pourri.
C'était quoi?
Je sais plus, c'était l'Odyssée. L'Odyssée de Thomas Pesquet. Et j'étais pas contente. J'étais pas non plus contente de la combi. Je voulais faire un clin d'œil à Tintin sur la Lune. Donc en fait, c'était en contre-plongée. C'était trop compliqué, c'était moche. Et surtout, c'est Alice Vinocourt qui m'avait accompagnée.
Alice Vinocourt qui a fait le film Proxima.
Proxima, avec qui j'ai fait deux déplacements. Je me souviens, elle était dans le Thalys, elle fait... Ouais.
Très honnête.
Ouais, très honnête. Elle fait, en fait, on comprend pas, on voit pas que dedans, ça va être rigolo, en fait. Il faut que ça se voit sur la couverture. Non, très honnête et tout. Et Thomas, elle a fait... Mais en vrai dire, je pensais aussi la même chose. Et en fait, j'ai tout rechangé, mais je crois que j'avais eu même une réunion de commerciaux où en limite, il avait, ou avec les libraires, où c'est normalement la présentation aux libraires, c'est là-dessus qu'ils vont devoir tout communiquer. Et je fais, non, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Et en fait, c'est un copain, son anniversaire, à moitié un peu, qui est pompette, qui fait, mais tu t'embêtes pas, tu mets dans la combi de machin, et puis voilà. Ok. Et il est remercié d'ailleurs dans les remerciements. Il y a juste moi, vas-y, tu mets comme ça. Puis voilà.
Et dans la combi de Thomas Pesquet, c'était une référence à quoi finalement?
Non.
Moi, j'ai pensé à Dans la peau de John Malkovich.
Oui, un peu, oui.
Il y avait ça.
Oui, ouais, à Dans la peau, ça, ou... un petit côté, on l'accompagne, mais sauf que le truc emblématique, c'est la combinaison. Mais il fallait que j'abandonne tous les autres termes qui de mission, d'épopée, d'héroïsme, etc. Et qu'on arrête de se mentir. On se marre, on le suit. Ouais.
On se moque un peu de soi-même.
Et j'ai refait assez vite, j'ai eu un, je vais pas dire un flash, mais un peu, mon cerveau a fait, allez, hop, on fait sérieux et on va. Et après, que tout le monde m'ait dit, c'est pourri, j'ai tout refait. Et voilà.
Et donc en 2017, en novembre 2017, paraît la BD avec 200 pages, avec cette nouvelle couverture. Et c'est peu de dire que ça marche, puisque c'est indéniablement un best-seller. Rapidement en plus. Non
ouais, il a été épuisé assez vite. Ils ont été pris un peu de cours en plus, l'éditeur, il fallait qu'il réédite. À un moment, il y avait des libraires, ils s'étaient épuisés, des stocks, c'était avant Noël. Moi, je vois ça et tout. Et ouais, je crois qu'on était la deuxième meilleure vente derrière Astérix Obélix de l'année. Et c'est pas ça qui m'inquiétait. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est de faire la presse, de faire beaucoup de presse,
de promos,
ouais. Et d'en faire avec Thomas. On a fait deux télés et j'ai eu l'impression... Comme là, en ce moment, je toussais, mais j'ai pris de la cortisone avant. Et je me retrouvais en maquillage, mais avec une tronche. Et Thomas, qui était comme ça, à faire « Ah, tu tousses encore
!» C'était l'hiver en même temps. Hein.
Non, mais je tousse tout le temps en promo. Et ouais, c'était très nouveau pour moi de faire des télés à côté de Thomas. En plus, j'avais l'impression d'être, pas une potiche, mais d'être... d'être à côté comme ça, en mode comme un petit labrador avec quelqu'un qui savait très bien manier les caméras, qui se tenait très bien.
Le labrador, c'est ton animal totem, j'ai l'impression. Ça fait trois fois que tu te compares à un labrador.
Oui. Non, mais moi, j'étais étonnée de tout. C'était pas les premières télés, mais j'étais très intimidée encore de ce côté. Tu t'es greffée à la personne qui marche et c'est pour ça que ta BD marche, en fait. J'avais très peur qu'on se dise, voilà... La petite meuf qui s'est accolée au gars à succès pour faire sa BD, qui en a profité.
Alors que c'est l'inverse, en fait.
Oui, je dis souvent que j'avais plus de followers que lui avant. Et après, j'ai calculé, j'ai dû faire 35 heures de dédicace en moins d'un mois, non, jusqu'à Angoulême. Donc j'étais meilleure.
Et donc ça, encore une fois, quand on est autrice ou auteur de BD, j'imagine que faire un best-seller, c'est le Graal, non?
C'est pas désagréable, parce que déjà, financièrement, c'est rassurant. Ça met du beurre dans les épinards.
Ça y est, tes parents étaient rassurés, du coup.
Et encore. Oui. Maintenant, ça peut encore... Ça peut, tout peut se casser la gueule du jour au lendemain. Non, ils étaient un peu contents. Non, c'est... Moi, ça m'a un peu mis confiance en moi parce que c'est un sujet. Donc, c'est vrai que ça pose un peu dans la profession. Après, j'ai eu un prix à Angoulême. Donc, évidemment, quand vous avez un prix à Angoulême, vous avez un projecteur et vous faites... qui fait une flèche en disant « Bon, la petite meuf, si ça se trouve, bon, c'est peut-être pas si mal ce qu'elle fait, elle dessine très mal. »
Elle dessine très mal.
Non, ça aide pas mal pour le futur, parce que c'est sûr que les éditeurs, maintenant, ils me font plus confiance. C'est vrai que si je viens avec un sujet, je pense que mon éditeur, il me pose plus la question « Mais qu'est-ce que tu es allé chercher ? Qui c'est que ça va intéresser ?» C'est vrai que ça...
Ça t'a fait changer de statut, tu dirais, ce succès, cette réussite ?
Je pense que mon éditrice, maintenant, elle voit comment je fonctionne. Elle se dit, bon, on va peut-être la garder. Et ouais, je pense qu'ils sont contents quand même. Non, je pense qu'ils ont plus confiance dans ma manière de travailler parce que je suis un peu foutraque. J'ai en disant, je vais vous faire un sujet. Il est possible que ça parte en cacahuète. Hein. J'étais partie sur un truc scientifique sur Mars. C'est parti sur la vie d'un astronaute. Donc, je peux être un peu comme ça. Attention. Donc, ils me regardent faire. Je ne vais pas leur taper sous Word un scénario tout fini. Ça va être du terrain et des trucs comme ça. Mais maintenant, je pense qu'ils ont compris que je vais retomber sur mes deux pattes. Non, c'est marrant. C'est même un peu risqué. En fait, après, j'ai dit à mon éditrice, attention, hein, ce n'est pas parce que je vends des palettes que maintenant, il va falloir que tu acceptes. Ça, c'est ma phobie. Ça peut arriver qu'après, quand vous vendez bien, en gros, on vous dise plus ça ne va pas, ça ne va pas.
Ah oui.
On a peur que vous partiez, que vous fassiez votre star et que vous disiez « Ah bah, t'aimes pas. Eh bah, je vais aller chez le concurrent. » Ils ont super peur de ça, donc ils font « Tout est bien. »
Mais toi, t'as besoin quand même qu'on te cadre.
Bah, je reste avec mon éditrice, je lui dis « Tu me dis. Hein. » Parce que c'est très tentant. Vous pouvez être un festival, vous avez un peu bu, vous faites « Alors, je vais faire un truc avec des poneys nazis. » Et vous avez en effet un éditeur qui fait « Je t'ai entendu hier soir. » C'est très intéressant.
Cette histoire de poneys nazis. Parlons-en.
Oui, c'est presque...
Voyons-nous
c'est vrai,
à Paris.
Non, je sais plus. Je crois que j'avais dit, je vais faire une histoire. On va suivre Judas et on va montrer qu'il a voulu sauver Jésus. C'était un soir n'importe quoi. Et il y en avait un qui avait écouté. Il fait, c'est une bonne idée. Je dis, non. Donc, je veux que des gens me disent, tu pars en cacahuète ou des trucs comme ça.
Ou le spatial, d'ailleurs. On ne t'a pas demandé, puisque tu as fait dans la combi de Thomas Pesquet, est-ce que tu ne veux pas faire d'autres trucs sur l'espace, l'astronomie? Mars, justement, parce que c'était ton idée de départ, le soleil, le je ne sais quoi.
Ah si, il y a des gens qui m'ont proposé des trucs en astrophysique, mais j'ai aussi eu des propositions d'autres autobios, de cuisiniers célèbres ou de gens plus ou moins célèbres. J'ai appris que j'avais été pressentie pour une bio de Mbappé, mais j'ai appris...
En BD ?
Oui.
Et t'as
j'ai
dit
appris
non
sur Twitter. Non, j'ai appris sur Twitter que j'avais été citée. Non, c'est l'éditeur qui m'a expliqué après que ça allait être vraiment compliqué parce que l'idée... Mais je ne sais pas tout. Je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé. Alors déjà, moi, ça allait être non parce que moi, le foot, même pas depuis que je suis enfant.
Mais toi, t'adores.
Non, je déteste le foot. Mais je me dis, je ne vais pas... Je suis une petite fille. Je n'avais pas le droit de jouer au foot. Je me suis pris des ballons de foot dans la tête. C'est pas aujourd'hui que je vends des livres qu'un footballeur va me demander de dire que c'est chouette le foot. J'aime pas le foot. On s'aime pas, donc on va pas se forcer. Mais c'est aussi dans la démarche, c'est-à-dire, je me suis dit, ça va, quand vraiment c'est des grosses stars comme ça, je pense qu'il y a trop d'avocats. Il y a des avocats qui gèrent ça, l'image. Et là, c'est compliqué. C'est ça qui a vraiment été cool avec Thomas, c'est que je l'avais en discussion directement lui, ou des gens qui avec qui il disait je veux ci, je veux ça. Là, le problème, c'est quand soit vous passez par institution, si vous voulez faire un truc sur un homme politique, etc., il faut...
Ça devient une œuvre sans intérêt.
Bah, ça devient un truc que plusieurs personnes vont relire, vont négocier. Et moi, je ne vais pas négocier avec un avocat sur une blague. J'aurais pu avoir un avocat qui... Alors, la blague sur le caca dans l'espace, ça ne va pas du tout. Ça aurait pu être ça. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est marrant, ils n'ont pas compris aussi la démarche de Thomas, qui a été d'être assez cool pour dire, bon, bah, je vais peut-être être représenté, de se marrer sur son image. Pense que a posteriori, il y en a qui se sont dit, moi aussi, je veux mon livre, mais il faut accepter... en amont, la démarche. Non, j'ai eu des propositions sur d'autres gens, mais je me suis dit que c'était pas intéressant pour moi. J'allais pas refaire le même processus.
Toi, on a compris, ta passion, c'est la science, c'est la technique, c'est comprendre ce que tu comprends pas,
ouais,
et de l'exprimer en bande dessinée. C'est pas non plus classique dans le monde de la BD. T'as un statut particulier. On te demande de réparer des frigos, des trucs comme ça.
Ah non, non, non. Non, mais en fait, c'est drôle parce que il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais fait une sorte d'étude de marché du milieu de la BD et que j'avais remarqué que c'était un manque, la science. On m'avait demandé ça, je ne suis plus une journaliste, et je fais, mais je n'ai pas du tout les moyens d'analyser sociologiquement de quoi ont besoin les gens. J'ai juste fait ce que j'aimais. Et au début, j'avais des éditeurs qui disaient, c'est des trucs de niche. Enfin, s'intéresser à des trucs scientifiques, c'est comme faire un livre sur la pêche à la mouche. Enfin, vous allez intéresser 2000 personnes et pas plus. Après, il y a une vague de BD, plus ce qu'on appelle la BD du réel, où on refait du terrain, on va voir dans des labos et des choses comme ça. Et j'ai des confrères qui font ça, comme Mathieu Burnia, lui qui a fait même des livres hyper techniques sur la physique quantique avec Thibaut Damour. Donc je suis pas la seule. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période un peu de défrichage. Je dis pas que j'y suis arrivée toute seule, mais où il a fallu prouver que oui, les gens sont intéressés par le monde, les questions.
Oui, parce que niche, je veux dire, quand tu as fait une BD sur les robots, par exemple.
Ah oui, ouais, l'intelligence artificielle.
C'est pas niche quand même, l'intelligence artificielle.
Non, alors ça, c'était déjà un peu plus tard, quand j'avais déjà un peu prouvé par tumour à main bête que non, ça intéressait les gens, la vulgarisation. D'ailleurs, c'est une collection qui s'est faite après, où on a compris que non, les gens étaient intéressés, il ne fallait pas prendre les gens pour des idiots, ils sont intéressés par des questions. Même très technique, mais c'est tout le défi de l'édition ou des trucs comme ça, c'est de flairer ce qui va marcher ou pas.
Si cet extrait vous a donné envie d'en entendre plus, l'épisode complet vous attend sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube.